Greetings, my friends, and a warm welcome to our dancing party. Now, here's a musical selection that should put you in a dancing mood. A catchy melody, and there's happy listening and dancing. And come on and hear our opening invitation to the dance. Ready, boys? We, my friend, come on, have well, have happy, and that should put you in a dancing mood. There's happy listening and listening and dancing. Sweet music.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, il y a 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir.
Et bonsoir à tous.
Alors bonsoir, vous êtes bien sur le sur Radio Canu au 102.2 et donc on est sur le Canu Info du lundi. Et aujourd'hui on va faire un petit Canu Info, mais pas moins intéressant que d'habitude.
Et c'est pas parce qu'on a la flemme, hein, c'est parce qu'il y a un conseil des émissions, dites-vous, ça marche comme ça, ouais. Juste après, donc on est obligé de partir un peu plus tôt.
Alors, bon, on va quand même faire le tour de l'actualité. On va commencer par l'international. En allant voir ce qui se passe à la frontière entre le Mexique et les
États-Unis.
Les États-Unis, oui.
Ouais, c'est un petit pays hein, qui n'est pas très connu. Mais bon.
Apparemment, il y a du monde qui veut y aller. Voilà.
Oui, on va tous aller là-bas.
Après, on va aller faire un tour en Russie en hommage à un camarade anarchiste. On va aller finir pour l'international en allant voir ce qui se passe au Qatar et ce que fait Vinci en fait, sur les chantiers de construction des stades de foot pour la Coupe du Monde.
Que du bien.
On s'en doute. Alors, après, au national, on ira voir les Gilets jaunes et on fera un petit bilan sur la répression et quoi en penser parce que c'est pas très clair pour à peu près tout le monde. On ira faire un tour sur les nouvelles réformes de Macron qui vont toucher en fait le coût pour l'entrée à l'université pour les étudiants étrangers. Et on finira par un retour sur le bal de masse à Marseille contre la gentrification et contre le chantier notamment de la Plaine.
Et puis pas d'infos locales.
Et pas d'infos locales et on aura quand même un petit agenda.
Si, un petit agenda parce que cette semaine il se passe pas mal de choses.
On fera donc un agenda. Et ben on commence avec la frontière mexicaine-États-Unis.
Avec plaisir.
Allez.
On vous en parlait il y a 2 semaines, je crois, de la caravane de migrants, principalement de Honduriens, mais pas que. Pour rappel, vite fait, il s'agit de plusieurs milliers de personnes qui ont traversé une partie de l'Amérique centrale à pied et en espérant pouvoir s'installer aux États-Unis. Du côté des États-Unis, vu que ces personnes étaient à pied, eh ben on a eu le temps de s'organiser entre leur départ et leur arrivée. En déployant par exemple 5800 militaires sur la frontière, puisque ce serait le nombre actuel, qui s'ajoute donc aux forces de l'ordre, qui sont d'habitude déjà à la frontière. Et puis Trump a bien précisé qu'il ne dépenserait pas un centime pour eux, pas pour les militaires, hein, pour les gens qui veulent venir aux États-Unis. Très bien. Et qu'il ferait tout pour que ces personnes soient renvoyées chez eux après contrôle de leur situation. Bref, depuis la caravane est arrivée, l'immense majorité s'est arrêtée à Tijuana et espérait traverser la frontière ici. Mais le gouvernement américain et le gouvernement mexicain se sont mis d'accord. Ils se sont arrangés et les futurs demandeurs d'asile resteront du côté mexicain de la frontière tout le temps de leur procédure de demande. Et ils sont donc en ce moment parqués dans l'état du Tijuana, pas vraiment logés, sauf pour une partie, dans un centre sportif. Parce que le maire de la ville ne souhaite évidemment pas non plus dépenser quoi que ce soit pour les accueillir. Étant obligés de patienter dans des conditions déplorables et ayant déjà quitté leur pays depuis plus d'un mois, une manifestation s'est organisée pour protester contre la lenteur des dépôts. Apparemment, environ 100 dossiers par jour seulement ne peuvent être déposés. Et lors de cette manifestation, 500 personnes ont tenté de profiter du nombre pour traverser la frontière. Illégalement donc, comme tous les médias le précisent sans cesse, ils ont d'abord dû contourner la police mexicaine, qui apparemment se serait laissée déborder par ses familles avec enfants. Puis ils se sont confrontés à l'armée américaine qui n'a pas lésiné sur les gaz lacrymogènes et a réussi à repousser la grande majorité de ces gens qui tentaient de traverser la frontière. Parmi eux, environ une quarantaine de personnes ont réussi à traverser la frontière mais ont immédiatement été arrêtées. Ils vont être expulsés et ils ont perdu toute chance de déposer une demande d'asile aux États-Unis. D'autres, environ 90 personnes, n'ont même pas réussi à traverser mais se sont fait arrêter par la police mexicaine qui les a aussi expulsés pour les punir de leur tentative. Et pour la petite poignée de gens qui ont réussi, ils risquent de ne même pas pouvoir déposer une demande d'asile, étant donné que Trump a signé il n'y a pas longtemps un décret pour que soient automatiquement refusées les demandes d'asile des personnes entrées illégalement aux États-Unis. Pour ces personnes, donc, c'est l'impasse totale. Il semble que le seul choix qu'on leur laisse, c'est de se soumettre à toutes les conditions qu'on leur impose pour avoir une chance minime de se voir accorder la clémence américaine. Et sinon, c'est la répression immédiate.
Alors pour continuer, on va aller faire un tour en Russie, donc je vais commencer par vous lire en fait, c'est une information qui date un petit peu, mais qui est quand même extrêmement triste, grave et importante pour qu'on prenne le temps de revenir dessus. Donc je vais commencer par vous lire l'extrait d'une lettre en fait qui a été écrite le 31 octobre 2018 par un camarade anarchiste russe qui s'appelle Mikhail Vasilievich Zolbitsky.
Tu le dis bien.
Ah ouais.
Pourtant, j'ai pas fait russe. Alors, compagnon, maintenant il va y avoir une attaque terroriste contre le bâtiment du FSB d'Arkhangelsk, dont j'assume la responsabilité. Les raisons sont claires pour vous. En réponse au FSB qui fabrique des affaires judiciaires et torture des gens, j'ai décidé d'y aller. Je mourrai très probablement dans l'explosion, puisqu'elle s'active directement en appuyant sur le bouton attaché au couvercle de la bombe. Du coup, je vous demande de diffuser les informations sur l'attaque terroriste, qui l'a menée et ses raisons. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite davantage résolument et sans compromis d'avancer résolument et sans compromis vers notre but. Je vous souhaite l'avenir radieux du communisme anarchiste. Donc tels furent les derniers mots du compagnon anarchiste Mikhail Zobzilski. Quelques minutes plus tard, il a déclenché une bombe artisanale dans le hall d'entrée du bâtiment abritant le FSB, qui sont donc les services secrets russes, à Arkhangelsk, au nord du pays. Trois officiers du FSB ont été blessés, le hall a été entièrement ravagé par l'explosion. Le jeune anarchiste, lui, a perdu la vie dans cette attaque vengeresse. Après un premier moment de stupeur et de désarroi, car personne ne s'en prend à cet organe suprême et ultra-puissant de la répression qu'est le FSB, l'État russe n'a pas pu démentir ou cacher ce qui venait de se passer. Un jeune anarchiste a emmené puis déclenché de ses propres mains une bombe, fabriquée artisanalement pour frapper le FSB, en réponse aux constructions policières et aux tortures contre des anarchistes, des antifascistes, des opposants. L'explosion rappellera violemment les détentions d'une vingtaine d'anarchistes et antifascistes au cours de ces dernières années en Russie, dont la plupart ont été soumis à la torture, tabassage, électrochoc, enlèvement dans la rue. Accusés d'appartenance à des organisations terroristes ou encore d'accusations fabriquées de toutes pièces, comme trafic de drogue, 10 d'entre eux se trouvent encore en prison ou en attente de procès. Cette répression féroce intervient dans un contexte où en Russie, mais aussi en Biélorussie et en Ukraine, il y a un fort renouveau de l'anarchisme ces dernières années. Plus d'une centaine d'attaques incendiaires ou explosives, souvent revendiquées par des compagnons, ont visé une multiplicité de structures de l'État, de capitalistes, d'oppresseurs, et cela aux quatre coins de ce vaste territoire. En face, un appareil étatique omniprésent des services secrets ayant carte blanche et continuant la longue tradition répressive de l'SKGB soviétique, un capitalisme oligarchiste et brutal, tout cela dans un contexte de fort patriotisme parmi les masses, de nazis fascistes particulièrement actifs, de guerres expansionnistes et de fortes difficultés pour se rencontrer, s'organiser et mener une quelconque agitation de façon plus ou moins visible. Au moment d'écrire ces lignes, suite à l'explosion survécue à Arkhangelsk, une centaine d'anarchistes, antifascistes et opposants ont été convoqués par le FSB pour interrogatoire. D'autres ont été menacés par les services de l'État, plusieurs ont été arrêtés accusés de préparation de nouvelles attaques, comme ce jeune anarchiste de 14 ans, Kirill Kiminski, arrêté à Moscou, au prétexte d'avoir voulu préparer un attentat à la bombe contre une manifestation de nazis fascistes, ou comme cet anarchiste de Kaliningrad, Vajdes Luskivest, accusé d'apologie du terrorisme. D'un autre côté, de nouvelles attaques ont recommencé à viser les structures du pouvoir. Le 7 novembre à Tangarog, il y a eu une tentative d'incendie du local du parti du gouvernement Russie-Unie. Le 10 novembre à Saint-Pétersbourg, un molotov a été lancé contre l'entrée du siège local de la télévision NTV, le molotov ayant malheureusement rebondi. Le même jour à Moscou, lors d'un rassemblement dans les bureaux de l'administration pénitentiaire, le feu a été mis à l'une de ses portes. L'État russe sévit contre un mouvement encore jeune et qui cherche, comme tous les anarchistes du monde entier, ses chemins pour lutter. Il ne s'épargne aucun effort pour atteindre son but, éteindre la flamme de la lutte anarchiste dans ses contrées lointaines. Que l'oxygène de la solidarité vole jusque-là, maintenant. En avant, compagnon, avec en mémoire Mikhail Zobzilski et toutes celles et ceux tombés avant lui sur les chantiers de la lutte anarchiste. En avant, compagnon, résolument, sans compromis, mort à l'État, vive l'anarchie. Alors pour ceux qui, parce que là j'ai lu quelques extraits, mais vous pouvez retrouver en fait l'article complet dans une revue qui s'appelle Avis de Tempête, que vous trouvez facilement sur internet, et vous trouverez un lien sur le site de Mars Info et de Paris Lutte Info. Et donc voilà, après ce passage, on va pas très très joyeux, on va continuer dans une chose encore moins joyeuse, au Qatar.
Oui, et donc on va en profiter pour prendre quelques nouvelles du joyeux monde du football. Vous le savez sûrement, la Coupe du Monde 2022 aura lieu au Qatar, et la Coupe du Monde, c'est quand même un gros business qui permet à certains de s'en mettre plein les poches. Ça ne manque pas avec le Qatar, et ça va même assez loin, avec le Qatar et avec Vinci en fait, puisque l'ONG Sherpa a mené une enquête et maintenant elle soutient d'anciens employés qui portent plainte contre l'entreprise Vinci, qui n'en est pas à sa première dégueulasserie en France comme à l'étranger. Au Qatar, elle est chargée de la construction de plusieurs stades, et pour reprendre les mots de l'ONG, ils ont constaté des cas de réduction en servitude, traite des êtres humains, travail incompatible avec la dignité humaine, mise en danger délibérée et recel.
Tranquille quoi.
Tranquille, ouais, c'est ouais, tout. Ouais. Les travailleurs en question sont essentiellement des immigrés venus d'Inde, du Népal ou des Philippines. Et je vous reprends encore les mots du rapport de l'ONG, en fait. Ils travaillaient avec leurs passeports confisqués entre 66 et 77 heures par semaine, entassés dans des chambres exiguës aux sanitaires insuffisants, percevant des rémunérations sans rapport avec le travail fourni, menacés de licenciement ou de renvoi dans leur pays en cas de revendication, et pour un salaire correspondant à moins de 2% du salaire moyen qatari.
Oh yeah, bah, sympa Vinci.
Ça donne envie. Et vive la France après tout ça une fois de plus. Ouais. Quoi. Et ben on va passer maintenant au national et donc on va faire le tour de tous les poussins hein, qu'on grandit à droite à gauche en étudiant le mouvement des Gilets jaunes.
Tous non, puisque c'est trop compliqué. Donc ce sera un bilan non exhaustif en essayant de déconstruire ce qu'on peut entendre et médiatiquement et sur certains sites internet. Alors voilà, les Gilets jaunes, vous en avez forcément entendu parler. Alors non, ce ne sont pas que des fachos ou des petits faf en puissance, et heureusement, mais il y en a quand même un petit paquet. Alors, il y a effectivement une véritable colère sociale qui s'exprime pour une frange de moins en moins négligeable de ce mouvement, relativement inédit dans un pays occidental et complètement inédit en France. Bien sûr, l'opération, une fois n'est pas coutume, hein, politico-médiatique, comme d'habitude, hein, a divisé le mouvement entre les méchants casseurs d'ultra-droite ou d'extrême-droite et les gentils gilets jaunes pacifiques. C'est bien sûr plus compliqué que ça, mais on ne peut pas négliger, comme le font certains sites internet de gauche radicale ou d'extrême gauche, je ne les citerai pas, mais la place que prend la droite radicale, l'extrême droite ou, j'y mets des guillemets, l'ultra-droite. Évidemment, c'est de la récupération politique, hein, ce que font Wauquiez, ce que font Le Pen, ce que font Philippot, ce que font Dupont-Aignan. Bien sûr que c'est de la récupération politique, mais dès le début, ils ont fait partie, surtout à certains endroits, de l'initiative et sont carrément en force et majoritaires sur certains points de blocage ou certains rassemblements. À d'autres endroits, ce n'est pas le cas. De Wauquiez à Le Pen, en passant donc par Philippot ou Dupont-Aignan, la base est massivement conviée à rejoindre les points de blocage et elle le fait. À Bordeaux, par exemple, les troupes de Debout la France ont été aux avant-postes de la plupart des points de blocage à plusieurs endroits de France depuis le 17 novembre. Des propos ou des actes racistes, sexistes ont eu lieu. À Toulouse, par exemple, l'un des leaders qui émerge médiatiquement, mais encore une fois, ça, c'est le rôle des médias est à mettre en cause, hein, est Benjamin Cauchy, qui était inconnu auparavant et qui est donc proche de Debout la France. Alors, a priori, ce dernier s'est fait virer par certains gilets jaunes samedi, et tant mieux. À Lyon, chez nous, samedi, donc, à Bellecour et sur la Presqu'île, eh bien, c'était les identitaires et le bastion social qui faisaient le service d'ordre, avec quelques chants de la Marseillaise, par exemple. Alors, c'est loin d'être le cas, pas uniquement à Lyon, donc, hein, des chants de la Marseillaise, des drapeaux français qui traînent, il y en a à plusieurs endroits. Mais ce n'est pas la majorité des points de blocage. Alors à Paris, puisqu'on a surtout entendu parler de Paris, médiatiquement, la situation était particulièrement folle. Dès la fin de matinée samedi, les premiers affrontements ont éclaté à l'entrée des Champs-Élysées et ont duré pendant 10 heures. C'est pas rien. Des barricades, des pavés, en veux-tu, en voilà, dans l'avenue des Champs-Élysées, hein, mais aussi sur pas mal de rues adjacentes, avec une composition de la foule très diversifiée selon un certain nombre de témoignages à qui on fait confiance. Alors, il y aurait eu donc des jeunes de banlieue masqués avec des gilets jaunes, il y aurait eu des cortèges par-ci par-là, type Black Bloc, type cortège de tête. Il y aurait eu pas mal de gilets jaunes, donc de gens avec des gilets jaunes, hein, à visage découvert, etc., qu'on fait face à la police à plusieurs reprises et pendant plusieurs heures. Et bien sûr, et c'est une réalité, hein, des militants d'extrême droite ou d'ultra-droite organisés, hein, dont la présence est incontestable. La répression a été extrêmement brutale, contrairement à ce qu'on peut entendre dire, même si certaines images posent question, puisque certaines images des médias de masse, CNews, BFM TV et consorts, à certains moments, effectivement, on voit des barricades enflammées à quelques mètres des centaines de CRS et rien ne se passe. En l'occurrence, il s'en est quand même passé de la répression. Et on ne peut pas le nier. Il y a eu plus de 5000 grenades lacrymogènes qui ont été tirées. D'après le préfet de Paris, qui s'appelle Michel Delpoëche, c'est historique en France sur le nombre d'heures qui se sont passées dans le cadre des affrontements. Énormément de tirs de balles en caoutchouc, Et la tristement célèbre grenade GLI F4, hein, il y en a eu plusieurs de tirés qui contiennent de la TNT et qui ont déjà beaucoup blessé et mutilé, parfois très gravement, des militants à NDDL. À NDDL, pardon, c'est moi qui ai écrit ça, Notre-Dame-des-Landes, ou à Bure. Et qui sont potentiellement mortels. Hein. Ce ne sont pas ces balles-là, ces grenades-là qui ont tué Rémi Fraisse, mais ce type de grenades assourdissantes, en tout cas, sont potentiellement mortelles. Il y a eu à Paris, et c'est Paris, 103 interpellations, 27 comparutions immédiates. D'ailleurs, dans les 103 interpellations, a priori, beaucoup ne venaient pas de Paris et étaient plutôt, sont venus plutôt de manière isolée. En tout cas, n'étaient pas nécessairement dans des groupes organisés d'extrême droite, d'ultra-droite ou de gauche ou d'extrême gauche, etc. Hein. Il y a eu au moins 31 blessés. Donc cette répression, elle est forte. On ne peut pas le nier. Comme à Paris, hein, il n'y a pas que les FAF qui sont dans ce mouvement, même si il ne faut pas nier ni la récupération politique de l'extrême droite institutionnelle, ni la récupération politique de l'extrême droite, plutôt, on va dire, extra-parlementaire. Mais là, il y a des syndicalistes, il y a des gens qui sont engagés dans des combats qui sont progressistes, voire révolutionnaires, qui sont aussi parfois présents. Et puis, il y a des gens aussi qui n'ont pas l'habitude ou qui vont pas dans les manifs, qui font pas grève forcément, qui sont pas forcément des FAF, mais qui peuvent l'être. Par exemple, hein, à Nantes, la journée a commencé par le blocage du périphérique par plusieurs centaines de gilets jaunes. Et dans Nantes, dans la journée, il va y avoir une convergence entre plusieurs manifestants et manifestantes qui viennent de la manif contre les violences sexistes et 200 gilets jaunes rassemblés devant la PREF. À Calais, la Fédération nationale des ports et docks de la CGT a officiellement apporté son soutien aux gilets jaunes et donc appelé à rejoindre aux prochaines mobilisations calaisiennes. La semaine dernière, 6 des 7 raffineries étaient en grève pour des questions salariales. Et samedi, des gilets jaunes sont allés en appui au blocage de la raffinerie de la Med. Voilà. Bref, pour terminer, La Réunion. Parce que La Réunion, eh bien, il y a un blackout médiatique autour de La Réunion. Alors que se passe-t-il dans cette colonie française ? En tout cas, la semaine dernière, il y avait un blackout. Hein. Cette île, elle est complètement ou partiellement bloquée. Les revendications ne sont pas du tout uniquement liées aux taxes et au prix de l'essence. Hein, ça va bien au-delà. Ce n'est pas la première fois qu'à La Réunion, il se passe ce type d'événement. Alors d'habitude, les CRS, l'envoi de CRS suffit à calmer les manifestants. Mais là, rien n'y a fait. Il a fallu mettre en place un couvre-feu et faire intervenir l'armée sur ordre de Macron. Donc c'est une intervention impérialiste, une de plus, hein, pour mater la rébellion à La Réunion. Alors c'est pareil, à La Réunion, il doit y avoir de la confusion dans les manifestants, puisqu'il y a de l'extrême droite, et ça c'est sûr et certain, mais il n'y a pas que ça, et c'est aussi la grogne sociale générale qui émerge, hein, à La Réunion, comme à certains endroits de France. Donc il faut être vigilant sur ce qui se passe les semaines et les jours qui viennent et les semaines qui viennent par rapport à ces gilets jaunes, puisque oui, on a de l'extrême droite organisée qui est présente, qui appelle, qui récupère, de l'ultra-droite aussi, bien sûr, mais pas uniquement. Donc affaire à suivre, et éventuellement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il faut surtout pas laisser la place à nos ennemis qui prennent le terrain, c'est-à-dire l'extrême droite, hein, même, et les capitalistes.
Et donc, pour continuer sur la question de l'augmentation des taxes et de la grogne sociale, on va aller faire un tour du côté des étudiants étrangers.
Ah oui, c'est important, parce qu'on parlait là des capitalistes, on va voir très bien, parce que ces réformes, notamment du gouvernement au niveau des études, au niveau du système éducatif, ils disent c'est pour attirer plus d'étudiants étrangers extra-européens dans les universités françaises. Le gouvernement décide d'augmenter les frais de scolarité, une mesure qui rendra plus attractif le système éducatif français à l'étranger, selon le Premier ministre Édouard Philippe. Ce projet a été annoncé, si vous voulez, lors des rencontres des universitaires de la francophonie. Il faut dire pour les prochains candidats, c'est-à-dire les étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre leurs études, disons, en France, ils seront amenés à payer 2770 euros pour une année de licence au lieu des 170 euros. 3 770 euros à la place des 243 euros pour le master. Donc, il faut dire, pour le gouvernement, c'est une façon d'améliorer l'accueil des étudiants étrangers, mais surtout augmenter le nombre d'aides financières. Ce projet, notamment ce projet fut nommé par le Premier ministre Édouard Philippe, Bienvenue en France. Là, ils ont plusieurs stratégies, notamment pour y arriver, parce que selon toujours le Premier ministre, c'est de faire financer les bourses des moins fortunés et des plus méritants en faisant payer les étudiants étrangers qui en ont les moyens. Donc, on essaie de dire que c'est les étudiants étrangers qui en ont les moyens. Donc, il va falloir payer. Donc, pour le patron de Matignon, il est inacceptable, si on peut dire, mais c'est ou bien injuste qu'un étudiant étranger fortuné paye le même montant qu'un étudiant français peut fortuner et dont les parents résident, travaillent et payent des impôts en France depuis des années. Donc pour le Premier ministre, ça c'est injuste. D'abord, il faut essayer d'analyser, surtout de décortiquer, de déconstruire ce discours du Premier ministre, parce que quand il dit des étudiants étrangers fortunés, alors il faut voir, il y a vraiment du qualificatif, parce qu'il dit des étudiants étrangers fortunés. La question qu'il faille se poser, l'autre étudiant peu fortuné qui souhaite poursuivre ses études en France, comment fera-t-il? À mon avis, l'objectif du Premier ministre, peut-être, et du gouvernement, est un tout petit peu nuancé, puisqu'il dit que c'est pour gagner la bataille de la concurrence internationale en accueillant plus des étudiants, les plus brillants et les plus méritants. Alors, des interrogations aussi, puisque s'il parle des étudiants les plus méritants, on pourrait se poser la question, est-ce que les étudiants les plus méritants, ce sont les étudiants les plus fortunés, d'où qu'ils viennent? Ça pourrait être une autre question. Mais ce n'est pas fini. Alors, si on est tous d'accord, ceux qui arrivent ne sont pas tous aussi fortunés que les camarades français, quels seront les étudiants brillants mais moins fortunés? Est-ce qu'ils pourraient aussi compter et continuer à rêver de continuer ses études en France? L'autre question. Donc, c'est, disons, l'ambition pour le gouvernement est d'atteindre les 500 000 étudiants en mobilité à l'horizon 2027 contre 320 000 actuellement, selon les chiffres des Campus France. Donc, il faut dire c'est qu'il serait très difficile d'atteindre ces chiffres si toutefois on augmente les frais de scolarité. Non seulement on sait que d'après les chiffres aussi, 43,2% sont des étudiants qui viennent de l'Afrique, donc de l'Afrique maghreb et les restes du subsaharien, surtout aussi des pays des francophones. Et si on regarde, les difficultés économiques sont énormes dans ces pays. Et selon ces pourcentages, on pourrait dire les étudiants qui pourraient être ou considérés comme des étudiants fortunés, ils ne dépassent pas 10%. Alors, quels seront les étudiants moins fortunés? Quels feront-ils? D'une façon générale, on pourrait dire cette décision du gouvernement n'est pas pour créer, si vous voulez, une attractivité des étudiants étrangers à venir en France, mais plutôt pour limiter l'accès aux étudiants étrangers dans les facs françaises. Et pourtant, cela pourrait avoir un impact sur l'avenir de la francophonie, parce que aussi quelque part, il y a une chose qui est en commun, c'est cette langue. Au-delà des ambitions personnelles et tout, de projets professionnels, car plusieurs étudiants viennent des pays francophones, que ce soit de l'Afrique ou d'autres pays, et le fait que le gouvernement essaye de rehausser, si vous voulez, le prix de scolarité, cela pourrait amener d'autres étudiants à changer de destination. Et quand on sait que ces étudiants sont les futurs, peut-être certains d'entre eux seront les futurs demain, cela pourrait inquiéter aussi l'avenir de la francophonie. Pendant ce temps, on sait que la Chine, par exemple, est en train de devenir un nouveau pôle d'attraction de la mobilité étudiante africaine, mais aussi d'autres pays et des pays, disons, des pays développés, pas que sous-développés, pas que africains, parce qu'il y a aussi la Colombie et d'autres pays. Pour vraiment donner un nombre croissant de bourses d'études dans leur coopération avec ces pays respectifs. Donc, pour le moment, l'État décide de créer 15 000 bourses qui concernent prioritairement des pays ou des étudiants qui viennent des pays moins développés. Et ça, quand on parle des pays moins développés, on sait d'où ils viennent. Et donc, Cela dit beaucoup parce que cette décision pourrait amener à d'autres étudiants, mais aussi à d'autres étudiants d'arrêter leurs études ou d'autres abandonner tout simplement leur projet d'études de venir étudier en France.
Et donc pour finir sur le national, on va aller faire un tour à Marseille et revenir sur la grande manifestation qui avait eu lieu ce week-end.
Alors oui, à Marseille, donc on en a parlé la semaine dernière, hein, donc on vous invite à retourner voir en podcast sur les détails, hein, de l'émission de la semaine dernière sur Marseille, notamment à la fois ce qui se passe à la Plaine, la construction du mur de la Plaine, la résistance qui a lieu, et Jean-Claude Gaudin et ses amis, les promoteurs immobiliers, et les conséquences que ça a sur Marseille, notamment dernièrement, hein, 8 morts dans le quartier de Noailles, après effondrement d'immeubles. Alors donc ce samedi à Marseille, il y avait un appel à se mobiliser pour continuer la mobilisation en solidarité avec la résistance de la Plaine contre les projets de Gaudin à la Plaine, et aussi pour dénoncer Gaudin et ses potes, les promoteurs. Donc on est parti donc du Vieux-Port vers 16h30, 17h. Il y avait entre 1500 et 2000 personnes au maximum. A été tenté donc réussi une construction symbolique d'un mur devant la Soleam, hein, qui est responsable du mur à la Plaine, il a été tenté donc d'approcher le quartier de la Plaine, qui était plutôt bien protégé par les flics, hein. On avait pas mal de flics autour de nous, il y avait un hélicoptère en permanence au-dessus de notre tête, ce qui est assez rare sur Marseille. Donc visiblement le préfet de Marseille préfère dépenser énormément de thunes, et tout comme le maire Gaudin préfère en tout cas dépenser énormément de thunes avec un hélicoptère au-dessus de la tête d'une manifestation plutôt que de protéger les gens qui sont dans des immeubles qui sont prêts à s'effondrer. Et arrivé à la Plaine, donc arrivé devant le mur, qui est d'ailleurs impressionnant, hein, il est vraiment, vraiment impressionnant, donc haut de 2m50, imbougeable, bien protégé. Il y a eu donc effectivement des charges policières qui ont débouché sur quelques interpellations, j'ai pas le chiffre exact, c'est moins de 10, et qui ont donc mis fin à cette manifestation. Alors c'était donc une manifestation qui était plutôt réussie, pas forcément par le nombre de personnes, quoique 1500 personnes c'est moins que rien. Ça montre malgré tout qu'il y a une forte mobilisation, il y a toujours une mobilisation contre ce projet immobilier de la Plaine, et que les Marseillais qui n'ont pas lâché l'affaire. Donc c'était voilà, plutôt une réussite.
Ouais, pourquoi pas. Une réussite, et pour rappeler, oui, le dernier chiffre qu'on a, il y a quand même 1400 personnes qui ont été relogées, dont on s'est rappelé suite au premier effondrement à Noailles que d'autres immeubles n'étaient pas du tout en état, et c'était peut-être temps. Donc il y a 1400 personnes qui vivaient clairement dans une situation de danger de mort imminente. Donc merci la mairie de Marseille. Donc au niveau local, sur l'actualité, on n'a pas forcément grand chose à dire, à part revenir sur dire qu'on a eu une très très belle manifestation ce week-end contre les violences faites aux femmes, et qui était très bien. Et on va faire un petit tour d'agenda quand même, parce que cette semaine...
Oui, comme on n'a pas trop le temps et qu'on devrait partir.
Et que cette semaine est quand même très chargée, donc on va rapidement faire un petit tour. Et pour cela, donc on va démarrer dès demain, il y a en fait devant l'école Jean Massé, commence à reprendre la tradition des goûters solidaires organisés par Jamais Sans Toi pour demander le logement des familles qui sont à la rue avec les enfants scolarisés. On a mercredi, ça intéresse tout le monde, à la Libre et la Griffe, organise une réunion et un pot d'accueil de toutes les nouvelles personnes qui seraient intéressées pour venir découvrir le collectif et qui seraient pourquoi pas intéressées par venir le rejoindre. Donc n'hésitez pas à passer, c'est à partir de 19h. Jeudi, on a une grosse actualité, notamment une projection de débat d'un documentaire qui s'appelle « Le poisson sort de l'eau ». Et donc, il y a un autre...
Vas-y, hein, je te laisse faire, hein, tu le montres du doigt, mais tu peux y aller.
Il y a un documentaire qui a été tourné
est réalisé autour de l'association Tilantia, qui est une association de documentaires avec pas mal d'anthropologues, et qui a eu pour concept en fait d'être allé sur la place Mazagran et d'avoir donné la caméra aux personnes qui étaient en fait qui étaient sur la place,
qui occupent la place régulièrement, et qui sont des personnes pour la plupart d'origine étrangère ou demandeurs d'asile, voilà, qui sont donc effectivement accaparés la caméra et qui se sont filmés les uns les autres. Ça a l'air d'être très intéressant. Donc c'est, tu redonnes l'heure?
C'est donc à partir de 18h30 demain, jeudi pardon, à la MJC Jean Massé. Toute la semaine en fait il y a aussi des rassemblements qui vont démarrer à la maison, devant la maison de la danse, pour en fait s'opposer à la grande campagne en fait aux échanges entre la France et Israël, et qui donc un différent collectif en fait de lutte pour la Palestine en fait appelle à un boycott de cet grand événement. Et puis bah, c'est déjà pas mal pour l'activité de cette semaine.
Et vendredi, il n'y a pas un apéro place Satonnet organisé par les collectifs Jamais Sans Toi, donc du premier arrondissement, puisque vous le savez, hein, c'est reparti, des familles à la rue, il y en a déjà beaucoup trop à Lyon, et donc il va y avoir besoin de soutien pour occuper les écoles, pour loger les gens et essayer de faire réagir les pouvoirs publics, si tant est que ce soit possible. Voilà, donc place Satonnet, j'ai pas l'horaire, hein, mais c'est...
Pas encore, mais ça sera très bientôt en ligne sur votre principal site d'information.
Votre site préféré, même.
Votre site préféré, on l'espère en tout cas. Et juste pour conclure la semaine, bah, samedi, il y a un concert gratuit à l'Amphi, qui est à l'Opéra National de Lyon, pour clôturer le festival Trace, si je ne me trompe pas, autour des questions de la migration.
Et l'heure?
Et donc l'heure, ça, c'est à partir de 18h à 23h à l'Opéra. Et bah pour cette semaine, nous, on va s'arrêter là. On vous souhaite une très très belle semaine, et puis on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Zep, zone d'expression populaire. Encore un nouvel affront qui fera jacter dans les chaumières. Devoir d'insolence, devoir d'irrévérence, devoir de résistance. On n'est pas là pour leur plaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé, maintenant c'est formel, ça y est, c'est confirmé. Parfois ministériel, les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés, carte blanche pour les gros pauvres qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels, un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Est-ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles? Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants. Affligeante l'évolution en 60 ans. Regarde à l'Assemblée, il y a que des culs tout blancs. Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon. Quand t'adhères à leurs projets, quand tu cautionnes leurs saloperies, leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes ils adorent le couscous et Cheikh Khaled, mais ils flippent que leur fille leur amène à Mohammed. Fais pas ton étonné, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rastons qui n'ont jamais enlevé leur costume de colon. Le racisme est dans vos murs et dans vos livres scolaires, dans vos souvenirs, dans votre histoire dont vous êtes si fiers, omniprésents. Il est banal et ordinaire, il est dans vos mémoires et impossible de s'en défaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Et toi alors ? Petit socialiste hypocrite, j'ai pour toi quelques rimes amèrement écrites. Tu nous as dit que ta cause était celle des sans-papiers, qu'elle était antiraciste. Tu nous as promis l'égalité, tu nous as fait miroiter, rêver d'une France meilleure. Mais tu triches, tu récupères, comme avec la marche des beurs. Manipulateur, tu cours après l'électeur, mais on t'a démasqué, toi et ton parti d'usurpateur. Et à nos intellos, nos petits fachos à lunettes, nos têtes à claques, comme la connasse de Fouresse. Ils propagent, alimentent la haine du musulman, du banlieusard, avec leur discours stigmatisant, leur discours arrogant, insultant et méprisant. On lui présente leur propagande dans les médias dominants. C'est l'union sacrée contre l'envahisseur, le barbare, le sauvage, contre l'ennemi intérieur. Mais on va pas se laisser faire, se laisser bâillonner, on va pas lâcher l'affaire. Comme Élie du LKP, c'est mon devoir d'insolence, mon devoir d'irrévérence, mon devoir d'impolitesse, mon devoir de résistance. Dit que la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Dit que la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Dit que la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Dit que la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Dit que la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Dit que la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Dit que la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses Roland et ses réflexes paternalistes. Dit que la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes.
Yeah.